Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 540 du podcast Touchdown Actu. 540 ou 539, je ne sais plus parce que le spécial Munich m'a embrouillé. Je suis perdu. Bref, dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. À mes côtés pour débriefer la semaine 10 en NFL, Raphaël Masmejean est de retour. Bonjour Raphaël.
Salut à tous.
Tu te rappelles pas quel numéro on a dit, non, dans cette
hier part? Je crois qu'hier tu as dit 538, mais...
Ah ouais, je sais plus. Bon, bref, ça doit être 539, c'est ça. Lucas Vola, bonjour Lucas.
Salut tout le monde.
Comment ça va, Lucas?
Ça va plutôt bien. Ça va. Je sais pas à la combien on est non plus. Hein. Je peux pas t'aider sur ça, mais je vous fais confiance.
Tu es notre atout soleil et antidépression. Il fait toujours beau chez toi?
Écoute, j'ai même enlevé le pull avant l'enregistrement. J'avais peur d'avoir un peu chaud.
Chance.
Véridique.
Je rejoins la. Alors, je fais part de notre débat interne aux auditeurs, mais on a un long débat team été contre team hiver hein, dans la rédaction TDA depuis des années. Cette année, j'ai officiellement demandé ma carte de membre à la team été. Hein. Moi, j'ai passé le cap où les feux de bois, ça m'amuse plus. J'en ai plein le cul d'avoir froid. C'est bon.
Sache que
c'est
ta fini. Candidature passe en commission. Hein, on n'est pas sûr de t'accepter.
Ouais, bah en tout cas, c'est envoyé. Hein, c'est,
avec tout ce que tu as dit depuis des années.
Ouais,
on
c'est,
a
ça,
pas
c'est ça. On a quand même un dossier dingue, négatif. Hein.
Mais j'ai basculé vraiment en un an. Ça m'a bam, ça y est, je suis déprimé depuis deux semaines.
Mais
c'est
souvent
lumière,
comme ça les révélations, tu sais, c'est instantané, ça frappe
ah ouais.
Comme ça. Et...
Ah, mais c'est une évidence en plus, tu vois. Genre, c'est-à-dire que je suis vraiment en mode, genre, mais pourquoi j'étais dans la team hiver avant, quoi, tu vois, pourquoi j'aimais le sombre, la tristesse, le froid, qu'est-ce qui allait pas chez moi, quoi, tu vois. Je me suis éveillé au bonheur cette année, je sais pas, il y a un truc. Et donc je réalise que le sombre, la nuit à 5 heures et les températures, pas négatives encore, tu vois, mais genre les 95% d'humidité, voire 114% d'humidité en Normandie, plus 5 degrés, c'est pas la combinaison qui me fait le plus kiffer, en fait, tu vois, à choisir. Bref, sur ces digressions météorologiques, serait-il temps de parler de NFL ? Oui, je le crois.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence avec la fin d'une série. Les Eagles sont tombés, ils ne sont plus invaincus. Défaite 32-21 contre les Commanders de Washington. Donc 4 ballons perdus pour Philadelphie contre 3 ballons sur leurs 8 premiers matchs de la saison. Est-ce que c'est ça la grosse différence? Est-ce que c'est là-dessus que s'est joué le match, Raphaël?
Forcément, en grande partie, il se joue là-dessus. Une équipe qui était habituée à ne pas perdre de ballons, qui tout d'un coup se met à multiplier les petites erreurs du genre... Sachant qu'elles sont... Alors certaines sont vraiment un peu de leur responsabilité, on va dire ça comme ça. Je pense à la passe de Hurts en double couverture sur Edgy Brown, elle est un peu cherchée. D'autres, ils ont un peu moins de chance. Je pense à Goddard qui perd la balle alors qu'il y a une faute du défenseur de Washington qui aurait pu être sifflé et donc ne pas avoir de perte de balle. Bref, tout est un peu mélangé. Et du coup, ça fait partie de ces matchs en NFL et c'est pour ça que les saisons parfaites sont compliquées. Où le ballon, le rebond du fumble ne tombe pas dans tes mains, ne tombe pas dans le bon sens. Et donc oui, pour moi, ils perdent là-dessus parce qu'ils sont pas, malgré ces 4 pertes de balles, je les ai pas trouvés si loin que ça de la victoire finale. Enfin, ils passent quand même pas très très loin, quoi.
Non, parce qu'il faut préciser que le 32-21, le score, il est aidé par un fumble sur la dernière action du match où c'est.
Il se passe la balle en arrière pour
voilà,
essayer
c'est,
de.
C'est un peu désespéré. Donc en fait, ils sont beaucoup plus près que ça. Ils sont à 6 points de moins, donc ce qui nous fait un 26-21, donc ils sont à 5 points avant ça. Lucas, en plus, ils ne sont pas aidés par l'arbitrage. Il y a un face mask non sifflé sur le fumble de Dallas Goedert qui fait quand même mal aussi. Au final, comme le dit Raphaël, ils ne sont pas si loin. Ce n'est pas une défaite vraiment inquiétante.
Non, non, alors c'est loin d'être inquiétant. Ils sont certes pas aidés par l'arbitrage. Après, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans ce débat-là? En effet, je pense qu'il y a ce face mask qui aurait dû être sifflé, qui aurait certainement annihilé ce fumble. Ceci étant, après ça, ils ont quand même des occasions, tu l'as dit, de repasser devant. Je crois qu'ils ont 2 drives pour repasser devant, ou au moins 1. Donc bon, il y a certes une erreur d'arbitrage, mais ils auraient pu et dû faire mieux. Maintenant, ils font pas un match catastrophique, loin de là. Ils perdent la bataille des turnovers, comme l'a dit Raphaël. C'est ce qui leur fait défaut. Maintenant, ils sont tombés contre une bonne équipe de Washington. Ils n'ont pas su élever leur niveau. D'habitude, ils sont bons en première mi-temps, les Eagles. Là, ils ne l'ont pas été. D'habitude, il faut une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bonne. Là, ils n'ont pas été bons en première mi-temps. Ils ont du coup couru après le score jusqu'à la fin. Ils n'ont pas su revenir. Ils sont tombés contre une équipe de Washington qui a su faire le travail. Donc, pas inquiétant, mais bon, voilà, comme l'a dit Raph, il faut être bon tous les week-ends, très bon tous les week-ends. Ils n'ont pas été très bons. Ils ne font pas un mauvais match, mais ils n'ont pas été très bons. Ils perdent ce match-là.
Raphaël, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, j'allais dire, ils se perdent peut-être aussi sur le plan de jeu. Pour une fois, on les a vus gagner de beaucoup de manières différentes cette saison. Et c'est vrai que là, par exemple, ils ont très peu utilisé le jeu au sol, alors que ça avançait pas trop mal les quelques fois où il a été sollicité. Bon, voilà, ça fait partie de ces soirées où tout le monde n'est pas très inspiré, on va dire, et tu te plantes bêtement face à une équipe de Washington accrocheuse.
Les Commanders qui avaient le bon plan de jeu, ils ont gardé le ballon pendant un peu plus de 40 minutes, ce qui n'est pas facile à faire. Alors c'est toujours un peu le truc, ils avaient le plan de jeu idéal. Bon, c'est pas facile à faire, mais ils l'ont fait. C'est le plan de jeu pour attaquer une équipe comme Philadelphie qui a une attaque très complète, hyper explosive. C'est de monopoliser le ballon comme ça, Lucas.
Pour le coup, pour moi, c'est vraiment ça l'enseignement de ce match-là. C'est vraiment les Commanders qui font un très bon match, qui font le plan de jeu idéal, comme tu l'as dit. Pas sûr qu'ils aient été hyper innovants, qu'ils aient montré à la ligue, ah ouais, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. On savait pas. Mais par contre, je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui savait, comme tu l'as dit, qu'il fallait faire ça. Mais par contre, il y en a très peu qui ont réussi à le faire depuis le début de la saison, quasiment aucune équipe. Et pour le coup, eux, ils l'ont très bien fait, comme tu l'as dit, très bon au sol. C'est vraiment ça qui leur a permis de garder le ballon, d'avancer. Très bon sur les troisièmes tentatives, parce qu'on le sait, c'est vraiment important, c'est crucial. Parce que quand on avance au sol de manière régulière, on prend 2-3 yards par jeu, ce qui fait que la troisième tentative devient importante sur les troisième et deux, troisième et trois, qui ont été régulières et qui ont été très bien gérées. Ce qui fait qu'on on avance petit à petit, on garde le ballon très longtemps, et ils ont réussi à conclure ces actions-là, mettre la pression, être bon sur les deux lignes. On sait que c'est une des forces de Philadelphie. Ils ont été bons sur les deux lignes. Pour moi, c'est tous ces ingrédients-là qui ont fait que Washington sort de ce match avec une très bonne performance.
En fait, je te sens dubitatif, non ?
En fait, je suis pas dubitatif sur ce que Luc a dit, mais je suis plus dubitatif sur le fait que que l'attaque qu'a montré Washington ce soir puisse être gagnante semaine après semaine. Dans le sens où ils jouent 21 troisième tentative. 21. Enfin, c'est quand même un chiffre assez délirant. C'est vraiment très, très au-dessus des standards et des moyennes habituelles d'un match. Ils en réussissent 12 en plus sur les 21. C'est en ce sens-là où je suis un peu dubitatif malgré tout pour la suite. C'est que ça fait beaucoup de troisième tentative. Donc, ça veut quand même dire que tu as 2 actions à chaque fois qui sont peu conclusives, peu d'yards gagnés. Pour moi, c'est pas un modèle qui est reproductible semaine après semaine. Ça ne peut pas marcher semaine après semaine. Là, ça passe parce que les Eagles ont du mal contre la course. Il y a un Fletcher Cox qui est plus du tout au niveau au centre de la ligne et ça leur a fait mal là-dessus. Mais ouais, je reste un peu sceptique offensivement parce que Washington propose quoi.
Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où les troisièmes tentatives, elles sont pas, c'est pas des miracles à chaque fois. C'est des troisièmes tentatives qui, j'aurais été d'accord si ça avait été des troisièmes essais, troisièmes et huit, et qui fait que bon, il y en a 12 sur 21. Je serais curieux. Alors c'est peut-être une mauvaise impression que j'ai. Je serais curieux de savoir la moyenne des troisièmes tentatives qu'ils ont eu à parcourir. Mais pour moi, c'était souvent des troisièmes et deux, troisièmes et trois. Une attaque NFL, certes, c'est pas la meilleure attaque, mais quand on est en troisième et deux et qu'on a un jeu au sol relativement performant, elle est capable de prendre 2 yards, 3 yards sur un jeu de manière, disons, plus souvent oui que non. Elle est plus capable de réussir que d'échouer. C'est en ça que pour moi, certes, il ne faudrait pas qu'il y ait des troisièmes tentatives, il y en ait 21 tous les matchs, je suis d'accord avec toi, mais c'est en ça que pour moi, ce n'est pas des exploits, et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être sur lequel on peut construire.
Est-ce que Taylor Heinicke, 17 sur 29, 211 yards, une interception, aucun touchdown, mais avec quelques bonnes passes, on est d'accord qu'il a fini de tuer le débat avec Carson Wentz. Je crois qu'il n'y en avait plus, mais je m'assure juste.
Ouais, en tout cas, je pense que il fait le match qu'il fallait à ce moment-là. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Et en effet, dans un moment où Carson Wentz aurait pu revenir peut-être ou pourrait être sur le retour, je suis pas sûr, en effet, qu'on le remette. En tout cas, il n'y a pas vraiment de raison pour enlever Heinicke à ce moment-là, surtout pour mettre Carson Wentz.
Parce qu'ils sont à 5 victoires, 5 défaites, et toute l'équipe remonte le nez. Hein, donc, parce que la défense aussi, quand même, mine de rien, sur ce match-là, relève la tête. Donc, il y a quelque chose. Je termine avec un petit mot quand même sur les stats des Eagles. Ils marquent 19,4 points par match en première mi-temps et ils sont à 7,9 en deuxième mi-temps. Alors évidemment, il y a quelques matchs qu'ils avaient un peu écrasés dès la première mi-temps, ça doit fausser un peu les stats. Mais est-ce qu'il y a un petit problème d'ajustement? Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous inquiéter pour la suite? Au final, c'est vrai que des fois, on peut aussi voir ça comme ils n'ont pas été très accrochés et quand ils sont en difficulté, bah, c'est pas idéal.
Bah pour le coup, ils n'ont pas été bons là sur cette première mi-temps. Je sais pas exactement combien ils marquent de points, mais je crois 14. Que là.
Ils mènent 14-0 quand même. Enfin, ils mènent pas 14-0, mais ils marquent 14 points en première mi-temps.
Premier quart.
Dans le premier quart, ouais. Donc, non, bon. Très bien. On verra par la suite si c'est une tendance qui se confirme ou pas, en tout cas. Chargers 16, 49ers 22. Les 49ers donc, qui s'imposent, deuxième victoire de suite. Et ils ont mis le couvercle en défense. Les Chargers ont eu le ballon à 2 minutes de la fin pour aller gagner, mais au bout de 4 actions, ils étaient de retour sur le banc. Sur la toute dernière possession, ils ont intercepté Justin Herbert. San Francisco, qui s'est vraiment imposé avec ses ingrédients classiques, c'est-à-dire défense, jeu au sol, Garoppolo à 0 touchdown. Est-ce que... On a du mal toujours, j'ai l'impression, c'est l'équipe sur laquelle on a toujours du mal à tirer des conclusions des matchs, ou en tout cas à tirer des enseignements ou à analyser les matchs, parce qu'on fait la même analyse tout le temps, en fait, j'ai l'impression. Lucas qui hoche la tête.
Ouais, mais c'est exactement ça, on fait la même analyse tout le temps, et puis on se dit que quand ils font ce match-là, on se dit, mais ils sont difficiles à prendre quand même. Franchement, ils ont une très bonne défense, tu l'as dit, ça fait partie des meilleures défenses de la ligue. Ils ont ce jeu au sol-là qui peut être performant. Ils ont un Garoppolo qui fait pas beaucoup d'erreurs, et puis on se dit, quand même, il va falloir quand même compter sur eux. Et puis d'un coup, sur une semaine, ils font un match où ils passent complètement à travers, où Garoppolo nous fait 2 interceptions, où on ne sait pas pourquoi le jeu au sol ne marche pas, la défense est un peu trop mise sous pression et du coup elle craque un peu plus que d'habitude, même si quand même la défense elle passe rarement à travers totalement, mais des fois elle est tellement mise sous pression que forcément elle encaisse des points. Et puis on se dit, mais bah, en fait cette équipe de San Francisco, on l'a mal jugée ou comment ça se passe? C'est vrai que c'est très et ça dure depuis, j'ai presque envie de dire depuis que Garoppolo est là. Après bon, ils font un Super Bowl, ils font une finale de conférence. C'est quand même, il y a quand même du succès globalement plus que des défaites, mais c'est vrai que ça reste bizarre.
Est-ce que les leçons, elles sont du côté des Chargers alors, Raphaël? Parce que les Chargers sont à moins de 250 yards. Alors oui, il manque beaucoup de receveurs, oui, il manque beaucoup de monde, mais on a du mal à ne pas être déçu par cette équipe.
Ouais, oui, déçu par rapport à l'intersaison et à la free agency et le fait que tu étais sur une dynamique Justin Herbert et que tu t'attendais à voir tout ça confirmé, progresser. Je rejoins. Après, je trouve qu'il y a à la décharge peut-être d'autres équipes, plus déception, on va dire. Je trouve qu'il y a un contexte actuellement à Los Angeles qui fait que entre les... Tu le dis, là ces deux receveurs principaux, c'est quand même Carter et Palmer. Enfin, bon, c'est pas tout à fait ce qui était attendu non plus en début de saison où ça devait être Keenan Allen et Mike Williams. Disons qu'il y a un petit downgrade. Ouais, tout le monde est un peu décevant, le coaching est décevant, les blessures s'accumulent. Là, il y a encore des blessés sur la ligne offensive en cours de match, alors que c'était déjà les remplaçants sur le terrain. il commence à, ça commence à se multiplier. C'est une déception, mais je trouve que contrairement à peut-être certaines équipes, il y a un peu de contexte. Il y a un peu plus de contexte et ils sont pas non plus si loin que ça.
Ils ont un bilan positif, hein. Ils sont à 5 victoires, 4 défaites. Mais je pose la question parce que Justin Herbert fait un match à moins de 200 yards, c'est son plus petit yard, plus petit match de la saison. Est-ce que toi qui le sentais blessé ces dernières semaines, quand tu le vois jouer là, est-ce qu'il te semble en bonne santé?
Ah, moi je continue à maintenir qu'il est diminué, qu'il est diminué aux côtes et qu'il a une incapacité à viser la profondeur comme il a pu le faire sur ses premières saisons en NFL. Alors après, il est apte, il monte sur le terrain et donc il fait ce qu'il peut faire et ce qu'on estime qu'il est capable de faire. Maintenant, je pense que malgré tout, ça diminue, on va dire, le playbook et le potentiel de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on voit pas ce qu'on voyait ces dernières. Sincèrement, je vois pas pourquoi un quarterback comme Justin Herbert, dans la force de l'âge, n'arriverait plus tout d'un coup à jouer en profondeur si ce n'est une raison physique. Enfin. Il sera en fin de carrière à la Manning, tout ça, je te dirais, bah, c'est l'âge, en fait. Mais là, il n'y a pas de raison.
Il a 24 ans, là, quand même.
Ouais, il n'y a pas de raison que sa puissance de bras ait disparu en une intersaison, en fait.
Paradoxalement, vous allez peut-être me prendre pour un fou, messieurs, mais en regardant ce match-là, et certes, les statistiques ne sont vraiment pas en sa faveur, et le nombre de points aussi, mais j'ai eu l'impression que physiquement, dans ce qui montrait l'impression visuelle, il y avait du mieux pour Justin Herbert. J'étais assez d'accord avec toi, Raph.
C'est vrai aussi, je rejoins.
Qu'il a pris un petit peu, on l'a senti un petit peu plus à l'aise, notamment dans des courses, il s'est mis en danger un petit peu plus sur certaines courses ou certaines sorties de la poche. Alors oui, bon, il y a moins de 200 yards, oui, en effet, il y a des cibles qui manque et donc du coup forcément, mais j'ai l'impression tout de même, et c'est encore basé, c'est comme le sentiment que l'impression qu'il était blessé, comme on le sait pas, c'est une impression, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller un peu mieux, ça peut donner un petit peu d'espoir. Maintenant, c'est vrai que c'est une nouvelle défaite.
Nouvelle défaite, la défense qui a passé 36 minutes sur le terrain, donc qui a fini aussi par céder un petit peu, je pense que.
Si je peux me permettre, je pense qu'elle est notamment là, la déception, peut-être même plus que l'attaque qui a beaucoup de blessés, beaucoup de points comme ça, où on peut se poser des questions, c'est la défense. Peut-être le plus décevant du côté de Los Angeles. Il y a eu des recrues, on s'attendait à mieux, et notamment contre la course avec les arrivées de Khalil Mack, de Sébastien Joseph Day sur le premier rideau notamment. On s'attendait à ce que Los Angeles arrive enfin à défendre la course, et c'est absolument pas le cas, et c'est peut-être là le plus décevant pour le moment chez eux.
On passe aux Packers qui ont battu les Cowboys 31-28. On les a enterrés la semaine dernière. Alors forcément, les Packers ont répondu, parce qu'Aaron Rodgers écoute l'émission, hein, on le sait. Donc les Packers s'imposent contre les Cowboys. Ils étaient menés de 14 points dans le dernier quart, les Packers. Christian Watson a marqué deux fois pour arracher la prolongation. En prolongation, Dallas a préféré tenter une 4e et 4 plutôt qu'un long field goal. Raté, la 4e et 4. Aaron Rodgers sanctionne derrière puisqu'il a une bonne ouverture de terrain. Il est pas loin en terrain adverse, mais il est bien placé. Est-ce que la morale, c'est pas que ça va mieux quand Rodgers fait confiance à ses coéquipiers, parce que Christian Watson, il réussit des trucs en fin de match, mais il en avait surtout raté en début, et on a continué à aller vers lui, on lui a fait confiance, et magie, ça paye. Raphaël, je te vois sourire.
Oui, ah ben forcément, ça prête à sourire. Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas, mais en tout cas, y avait des bruits de couloir que même les jeunes receveurs de Green Bay apprécient pas trop toutes les remarques d'Aaron Rodgers. Donc si effectivement il a mis un peu d'eau dans son vin et que ça permet d'apaiser tout le monde et d'avoir un peu plus de synergie collective, peut-être que ça joue déjà sur le terrain, et tant mieux. Tant mieux, parce que ça fait une vraie différence quand tu peux compter sur quelqu'un d'autre qu'Alain Lazard. Et ça a aidé cette équipe. Donc, à quelque part, pour Green Bay, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est une alchimie qui commence à se créer et que ça permet de relancer l'attaque. C'est pas loin d'être un de leurs meilleurs matchs en termes d'offense. C'est peut-être même le meilleur de la saison pour Green Bay.
Oui. C'est possible, d'autant plus que, bon, je charrie sur Rodgers, mais le fait principal, c'est quand même que Matt LaFleur s'est rappelé qu'il a des bons coureurs et qu'ils ont couru 39 fois contre 20 passes et qu'ils gagnent, en fait, quasiment autant de yards. En fait, il y a 207 yards au sol pour 208 nets à la course, une fois que t'enlèves les sacs. Et Lucas, on est d'accord, c'est aussi ça le fait du match.
Ouais, moi, c'était pas vraiment la lecture que je faisais. Tu parlais de Rodgers qui faisait confiance. C'était pas vraiment la lecture. Pour moi, l'enseignement, il est presque. Est-ce que LaFleur a pas décidé que Rodgers ne serait plus que. Je vais caricaturer, messieurs.
Game manager.
Ouais, bah oui. Mais oui. Mais
t'as raison.
En fait, on le voit. Tu t'as parlé de ses statistiques. Je crois qu'il y a une dernière. dernière passe en toute fin de match qu'il fait passer au-dessus des 200 yards, mais il est pas loin de faire un match sous les 200 yards, ce qui a pas dû lui arriver beaucoup dans sa carrière, parce qu'on le sait, c'est un quarterback incroyable. Mais c'est certainement devenu le jeu au sol leur arme principale dans cette attaque, parce que Rodgers c'est peut-être pas ce qu'il était, et surtout parce que les cibles ne sont pas forcément au rendez-vous, ou ne font pas confiance, enfin tournez-le comme vous voulez, mais en tout cas le jeu au sol devient l'arme principale, donc autant l'utiliser de manière principale. Alors est-ce que maintenant c'est parce que c'était Dallas en face et que LaFleur a vu que ça fonctionnait et qu'il a eu au moins la présence d'esprit de se dire on va continuer, ou est-ce que ce sera quelque chose qui va durer semaine après semaine? Mais en tout cas c'est peut-être ça la lecture qu'il faut en faire. Et ensuite, une fois que le sol gagne du terrain et que la défense est obligée de se concentrer sur le sol, ça ouvre des espaces en profondeur que Rodgers est largement capable d'exploiter, parce qu'on le sait, il est incroyable. Parce que faire confiance à son receveur, qu'est-ce qu'il faisait de plus que lui lancer le ballon très loin, et au pire, c'était un petit peu trop lancé. Je caricature encore une fois. Mais voilà, pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois ce match-là, à voir si ça dure dans le temps.
T'as tout à fait raison, en vrai c'est ce qu'on disait aussi plus ou moins depuis des semaines, c'est qu'il fallait jouer sur les forces de cette équipe, quitte à faire comprendre à Rodgers qu'il n'était plus l'atout numéro 1, ou en tout cas qu'il n'a plus les armes et les aides pour être l'atout numéro 1. Donc bah voilà, c'est ce qu'il fallait faire quoi. Tu cours, t'as Aaron Rodgers, est dans ma fantasy, fais-le courir quoi mon gars, il faut aussi quoi. Merci beaucoup Matt LaFleur, très bon week-end. Je dérive, mais on est d'accord que voilà, ça c'était quand même hyper hyper important. C'est le premier match de la carrière de Micah Parsons où il a pas réussi à mettre la pression sur le quarterback une seule fois. Alors il a rushé 8 fois, mais tout de même, belle réussite quand même pour Green Bay. À quel niveau de la défense de Dallas ça a craqué? C'est le pass rush qui a seulement deux sacs, ou c'est la couverture? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on s'attendait quand même honnêtement à ce qu'il fasse très mal à Green Bay, et finalement il y a 31 points.
Ouais, c'est plusieurs éléments, moi j'ai envie de dire. Il y a cette pression qu'ils n'ont pas su mettre, alors que incarné bien sûr par Micah Parsons, normalement ça se passe un peu mieux à ce niveau-là. Après, tu as une défense contre la course aussi qui est quand même passée globalement au travers de son match. On les avait vus dans ce domaine-là en début de saison, et je trouve que là, depuis 2-3 semaines, c'est en train de... Elle est un peu décevante, cette défense des Cowboys. Enfin, la semaine dernière, ils en prennent quand même 28 contre Chicago. Là, ils en prennent à nouveau la trentaine. Ça commence à faire beaucoup de points pour une défense qui avait habitué à mieux en début de saison, et je trouve qu'ils commencent à craquer, notamment contre la course, et c'est assez problématique.
Lucas.
Ouais, non, je suis assez d'accord. La semaine dernière, on l'a dit, c'était aussi dans ce secteur-là que Chicago a fait des dégâts, et ça commence à prendre pas mal de points. L'attaque a essayé de faire ce qu'il pouvait. Je me pose aussi la question, pour aller un petit peu de l'autre côté du terrain, cette quatrième tentative-là en prolongation, je l'ai revue, je me suis posé la question. Pourtant, je suis le premier, vous le savez, à critiquer McCarthy sur son coaching. Je sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que c'est le field goal, la quatrième tentative, c'est vraiment une décision. Si ça marche, c'est très bien joué. Quand ça échoue, on se dit il aurait pas dû faire ça. Je me suis vraiment posé la question, je me suis même demandé ce que vous auriez fait, messieurs. Mais en effet, cette défense là en tout cas, elle a pris pas mal de points pour y revenir, et ça leur fait défaut dans ce match là
ça aurait fait combien précisément le field goal?
55, je crois.
Ouais, non, je fais pas confiance à un
55 yards à Green Bay.
Ouais, non.
Je sais pas.
Non, ça me choque pas. Pour une fois que Mike McCarthy a été audacieux en plus.
Oui,
non,
pour le coup,
il va plus jamais le faire.
Pour
hein.
le coup, c'est vrai.
Disons que ça me choque si t'as Justin Tucker en kicker. Là, j'aurais dit bon,
oui, voilà.
Mets-lui le ballon, mais. Ouais, pareil.
Non, sinon, honnêtement, ça se défend. Les deux se défendent. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'en prolongation, comme t'as une possession chacun, si tu rates le. Ouais, tu me diras dans les deux cas, en fait. Si tu rates le field goal, tu donnes le ballon à Aaron Rodgers en bonne position. Si tu rates la quatrième, tu donnes. Oui, donc dans les deux cas, tu lui rends le
et
ballon.
Et puis, oublions pas que le field goal ne fait pas gagner le match non plus. Hein. Il est derrière, Green Bay a quand même la balle.
Ah non, c'est ça en plus, ouais. C'est ça. Donc. Non, c'est pas délirant de dire on va essayer d'aller chercher la victoire sur une 4ème et 4. Après, mine de rien, donc CD Lamb fait un énorme match, mais ils ont quand même calé sur leurs 3 derniers drives. On l'a dit, ils menaient dans ce match les Cowboys. Donc ça arrive, mais mine de rien, ils ont 3 balles de match quoi, sur cette rencontre en comptant la prolongation. Et c'est peut-être aussi, je vais pas mettre en... en garde, mais on attend quand même un Dak Prescott peut-être plus serein depuis qu'il est revenu de sa blessure. Il n'y a pas encore eu de moment où il a mis la main sur le match, où il a été décisif. Il va peut-être falloir montrer ça parce qu'il ne l'a pas montré dans ce match-là.
Il y a une interception.
On n'est pas inquiet, mais ouais, il est intercepté deux fois dans ce match aussi.
Celle en début de match, pour moi, elle fait mal. Ils sont à 7-0, je crois, qu'ils arrivent pas loin de la end zone. Je crois que d'ailleurs l'interception est dans la end zone ou quelque chose comme ça. Pour moi, elle fait mal en début de match. C'est vrai que c'est pas inquiétant pour Dak Prescott, mais on espérait un petit peu mieux.
On en parlait un peu dans la preview de la semaine, puisque l'affiche, ce sera Vikings-Cowboys. On parlera justement pas mal de cette attaque des Cowboys. Giants 24, Texans 16. C'était pas un très beau match, mais les Giants ont fait le boulot en dominant les tranchées. 191 yards au sol en attaque. En défense, Leonard Williams et Dexter Lawrence ont plutôt massacré l'opposition. C'est jamais beau avec les Giants. On a vraiment l'impression qu'ils jouent au niveau de l'opposition, hein, comme on dit, en permanence. C'est le résultat d'avoir Daniel Jones, j'ai envie de dire, tu peux pas non, ils vont jamais exploser en fait les adversaires d'en face parce que ça va être du jeu au sol. Ils ont donné 35 ballons à Saquon Barkley, c'est son record en carrière si je dis pas de bêtises sur un match pour Saquon Barkley. Donc ils sont condamnés à ce style-là un peu laborieux, Raphaël.
Bah tant que les squads aériennes et celles-ci, que ce soit le quarterback ou même les receveurs, parce qu'objectivement. Son numéro 1, c'est Darius Slayton, qui est pas un mauvais receveur, hein, entendons-nous bien, il a largement sa place. il a largement
c'est un
sa
numéro
place.
3, quoi.
Ouais, voire 2, allez, si on est gentil, 2, tu vois, mais bon, il n'y a pas de vraie menace numéro 1 dans cette équipe. Donc voilà, t'as un quarterback limité qui a peu de matos. J'ai envie de dire que bah forcément, si au sol ça marche, bah passe au sol et te prends pas trop la tête. Donc oui, je pense qu'ils sont limités. Après, la saison est déjà tellement plus réussie que ce que tout le monde leur prédisait que pour moi c'est quasiment que du bonus maintenant. Tous les matchs qui arrivent, c'est fait de plaisir, quoi.
Ils sont à 7 victoires maintenant. Si on leur avait dit au début de la saison vous aurez 7 victoires, tu vois, 7-9, ils auraient fait
ouais,
franchement
on prend.
7-9, c'est déjà pas mal. Hein. T'as raison. En plus, je dis Daniel Jones, c'est assez ingrat parce que ses cibles là, sur ce match, donc ceux qui ont capté des ballons, Darius Slayton, Isaiah Hodgins, Tanner Hudson, Wendell Robinson, Lawrence Cager et Saquon Barkley qui prend une réception. Clairement, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, leur visage ne m'apparaît pas quand on parle d'eux. Je me dis, ah oui, mais tiens, c'est Wendell Robinson. Mais,
c'est dommage qu'ils aient pas drafté un receveur avec le 20e choix l'année dernière, quoi. Un mec qu'ils ont envoyé du côté de Kansas City, qui est plutôt pas mal quand on arrive à le faire jouer.
Alors attends, moi j'allais donner un nom. Par contre, c'est que dans la liste, il y en a un qui a pas de réception, mais qui a été ciblé deux fois et qu'on a relâché une. C'est Kenny Golladay, qui est quand même un des naufrages les plus incroyables de mémoire récente, quoi. Oui. Le mec ne met plus un pied devant l'autre depuis qu'il est à New York. Ça c'est
terrible. Ouais.
Bon, Lucas, en tout cas, encore une fois, jusqu'à ce qu'il trouve un quarterback ou au moins des receveurs, on est sur un match new-yorkais, quoi. Ils ont dominé dans les tranchées, ils ont été physiques.
C'est ça. Et puis Saquon Barkley revient, c'est définitif, à son meilleur niveau. Il fait un match, tu l'as dit, bon, 35 portées, je crois plus de 150 yards, j'ai plus la stat exacte.
152, ouais.
152 yards. Pour le coup, il est plutôt agréable à voir jouer, même si c'est très puissant. Mais quand il est comme ça, c'est très fort. C'est probablement un des meilleurs à son poste. Et ça aide, comme tu l'as dit, parce qu'en effet, autour de lui, c'est pas incroyable, mais ça gagne. Alors oui, ils ont joué contre une équipe qui était l'une des plus mauvaises de la ligue, mais il faut gagner ce genre de match-là, et comme tu l'as dit aussi, les Giants sont déjà contents de gagner ce genre de match-là, ils ont un nombre de victoires qui est déjà conséquent. Maintenant, ils peuvent continuer d'espérer sur cette fin de saison, parce que ils se mettent à la hauteur de l'opposition, donc c'est-à-dire qu'ils vont éclater personne, mais je suis pas sûr qu'ils se fassent éclater souvent.
Ah non, ils sont dans tous les matchs, hein. Je disais vraiment ça pour ça, hein. C'est qu'ils vont être dans tous les matchs. Ceci étant dit, juste pour Saquon Barkley, ce serait bien qu'à au moins à partir de l'année prochaine, ils trouvent justement un quarterback et des receveurs, parce qu'à 35 ballons par match, on en a vu des Le'Veon Bell, des trucs comme ça. La chute est rapide aussi, hein. On parlait de réaliser que tu passes dans la team été, lui il va réaliser qu'il passe dans la team retraite ou dans la team infirmerie, tu vois, au bout d'un moment, à 35 ballons par match. Ah,
surtout qu'il est déjà passé, hein. Il connaît le chemin.
Ouais, c'est ça, donc faut lui souhaiter quand même qu'il y ait des gens qui viennent un peu, quoi, au bout d'un moment. Du côté des Texans, c'était absolument pitoyable en attaque en première mi-temps, il y a eu un peu de mieux. Est-ce que, à part Damien Pierce, grosso modo, il y a quelque chose à sauver? Alors Brandin Cooks, oui, mais il veut se barrer. En dehors de ça,
Larry Mittensil sur la ligne.
Voilà, mais c'est un champ de ruines, hein, cette équipe. Les stats de Davis Mills sont très très flatteuses. Il a 319 yards, ouais, mais au début du match ça n'avançait pas du tout, c'était une galère totale. Je vois pas trop ce qu'on peut sauver de cette équipe de Houston qui quand même file grosso modo vers le premier choix de la draft, hein, vu le niveau actuel. Là, il y avait, c'est une bouillie de foot.
Bah, c'est surtout offensivement, moi, je trouve, parce que ouais. on l'a déjà dit cette saison, mais je trouve qu'en défense, tout n'est pas mauvais. Il y a des jeunes joueurs, Stingley, Jalen Pitre. Enfin, il y a quand même des jeunes à potentiel dans cette défense, et notamment dans le backfield. Mais c'est de l'autre côté du ballon où, effectivement, là, en attaque, c'est un champ de ruines, il faut reconstruire. Et après, je sais que certains dans la rédac étaient un peu hypés par les Texans en intersaison, mais il y avait toute une autre frange qui ne les voyait pas beaucoup plus forts que ça.
La majorité silencieuse.
Ouais, il y avait une majorité silencieuse, clairement, pour le coup, qui disait rien, mais qui s'attendait plus ou moins à ce que ça ressemble à ça, quand même. Hein,
Oui, bah. Et il est tout à fait possible qu'ils n'en gagnent pas un d'ici la fin, ou en tout cas un ou deux max, parce que ouais. la suite, c'est Commanders, Dolphins, Browns avec le retour de Deshaun Watson, Cowboys, Chiefs, Titans, Jaguars et Colts. On enchaîne, bah écoutez, on fait une petite pause, et puis on va débriefer le reste des matchs.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les Rams 17, Cardinals 27. Est-ce que c'est le moment, messieurs, où on va retirer tous les privilèges du champion aux Rams? Quand je dis privilèges du champion, c'est le moment, c'est toutes ces fois où on dit « Ouais, mais c'est le champion, ils vont se réveiller. Ouais, mais il y a quand même des stars, ils vont peut-être se reprendre. Oui, il va peut-être y avoir une réaction. » Est-ce qu'on enlève tous ces trucs-là et qu'on dit « Les Rams sont ce qu'ils sont », c'est-à-dire une équipe qui est quand même en très très grosse galère offensive?
Le problème, c'est qu'on leur enlève ça et on leur rajoute le privilège de « Ouais, mais il n'y avait pas le quarterback titulaire ». Donc forcément, même si c'est pas le quarterback titulaire qui a montré beaucoup de choses depuis le début de la saison, je suis d'accord avec toi.
Et d'autant qu'il jouait, un quarterback remplaçant aussi.
Oui, c'est ça. On voit juste que ça a prouvé que les Cardinals avaient un quarterback remplaçant meilleur que le quarterback remplaçant des Rams, ce qui peut de temps en temps dans la saison peut être important. On le dit peut-être pas assez, mais avoir un quarterback d'expérience, ça peut servir sur des matchs comme ça ou des périodes de 2-3 semaines. Dallas en est la preuve aussi. Donc non, c'est vrai que là, les Rams, ça devient plutôt inquiétant, notamment offensivement. Pas sûr que ça aille pour le mieux en plus, parce que Cooper Kupp a eu un petit peu va avoir des problèmes de santé.
Il a eu une entorse ligamentaire de la cheville, donc plusieurs semaines d'absence.
Voilà. Donc c'est vrai que ça n'augure rien de bon pour l'attaque des Rams et pour les Rams en général.
Il y avait 17-3 pour Arizona à la pause. Les Rams se sont rapprochés dans le troisième. James Conner a tué le match. Ils ont été menés jusqu'à 27-10 hein, avant d'adoucir un peu le score. Raphaël, c'est à la dérive et même en défense, ça réagit pas vraiment.
Bah, je dirais que ça réagit plus en défense en fait. Mmh. Ça a réagi une bonne partie de la saison en essayant de maintenir les Rams dans le match à plusieurs reprises. Hein. On se rappelle la déclat de Ramsey il y a 2 semaines contre Tampa Bay. Ouais, je crois qu'il y a un peu un désabandon progressif du côté de Los Angeles, d'un peu tout le monde. Ils sortent d'un titre, il y a des blessés, tout le monde a un peu mal, tout le monde a le coup de blues, t'es à 3-6. Bon, bah, personnellement, après, encore une fois, comme Lucas l'a dit tout à l'heure pour Herbert, on n'est pas dans les vestiaires, on peut pas vraiment savoir le fond des choses. Mais moi, mon impression, c'est que là, l'équipe a lâché sur ce match, ouais. Elle a lâché et... Tout le monde se retape et on se revoit l'an prochain, quoi.
Ouais, et puis il y a des erreurs de casting aussi, on l'a dit, mais c'est une équipe, et on le sait en NFL, il faut quasiment faire un sans faute à chaque fois en termes de draft, de trade ou de recrutement pour arriver au bout. Il l'avait fait quasiment l'année dernière. Là, Allen Robinson, malheureusement, c'est... Alors peut-être qu'il est dans une attaque qui n'avance pas, donc forcément c'est difficile pour lui de briller, mais bon, il a réussi quand même à briller dans des attaques qui n'avançaient pas par le passé. Là, ça ressemble un peu à l'erreur de casting, on en attendait beaucoup en remplaçant d'Odell Beckham Jr. C'est vrai que tout ça accumulé fait qu'en effet, ça semble être une saison pas loin d'être perdue.
Il n'y a toujours pas de jeu au sol, il n'y a toujours pas vraiment de ligne, il n'y a plus Cooper Kupp, c'est l'abandon, les défenseurs font plus l'effort, c'est vraiment la déprime totale. Bon, l'homme du match, du coup, c'est Colt McCoy, 26 sur 37, 238 yards, un touchdown, des passes sur les 11 premières actions, je crois, de son équipe. Il est à 8 sur 11 sur les passes de plus de 10 yards dans les airs. Est-ce que c'est pas le quarterback qu'il fallait à Cliff Kingsbury?
Qui se dépêche parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Ouais, non, bah écoute, il fait son bon match de remplaçant hein, contre une équipe à l'abandon. Tant mieux, on sait que c'est pas un mauvais quarterback. Hein. Il n'a pas toujours été bien entouré, pas toujours. Voilà. Bon.
36 ans hein, quand même, Colt McCoy. Il est là depuis 2010 en NFL. Mmh. Passé par les Browns, par San Francisco, par Washington, par New York, par Arizona.
Pour le coup, c'est pas un quarterback sur lequel tu peux miser pour construire, bon, déjà avec son âge et puis même pour être un franchise quarterback. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit souvent des mecs qui on se demande pourquoi ils sont là, ils sont remplaçants, ils sont au chaud. Lui, pour le coup, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il fait le travail globalement. Franchement, c'est déjà tout à son honneur. C'est pas évident quand même d'être remplaçant 90% du temps et de devoir être prêt sur un match, deux ou trois, et de faire le boulot de manière plutôt correcte. C'est tout à son honneur.
Mine de rien, il est là depuis 2010. Depuis 2010, il n'y a qu'une seule année où il n'a pas joué du tout. À 2016, il devait être blessé parce qu'il a vraiment zéro stat et pas d'équipe. Mais donc 2016-2017, où il n'a pas lancé de passe. Mais sinon, il lance au moins une dizaine de passes par an. Voire l'an dernier, il en a lancé une centaine quasiment l'an dernier. Là, il a 37. Bon, voilà. Donc Colt McCoy, backup de l'année, je pense que c'est la leçon de ce match. Je sais pas si ça va sauver les Cardinals. Comment ?
Cooper Rush quand même.
Il y a Cooper Rush, c'est vrai. Bon, je m'enflamme. C'est un prix d'honneur pour sa carrière. Bon, ils sont à 4-6 aussi les Cardinals et on va pas s'enflammer. Ça reste compliqué pour eux. Les Chiefs l'ont emporté 27-17 contre les Jaguars. Les Chiefs qui menaient 20-0 dans le second quart. Les Jaguars se sont bien accrochés, ils sont revenus à 10 points. Kansas City avait quand même beaucoup trop d'armes. Match audacieux de Jacksonville, ils ont tenté et recouvert un onside kick dès le coup d'envoi. Ils perdent, alors je suis désolé, j'ai entendu ça, je sais plus si c'est Yahoo, je sais plus où j'ai lu ça sur un truc ricain, qui disait les Jaguars, ils perdent, mais ils perdent mieux. Est-ce que c'est une analyse qui vous convient?
Pardon.
la défaite encourageante, la fameuse.
Ouais. Ils perdent mieux qu'avant.
Disons que face à une équipe comme ça de Kansas City, qui même si je pense tout de même qu'ils ont ralenti un petit peu à 20-0 en étant un petit peu plus en dilettante, d'anciens Jaguars auraient pris une rouste, je pense. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'ils se sont accrochés. Comme tu l'as dit, ils ont été audacieux. Ça vient certainement aussi du coach. Il en a manqué, forcément, mais ils ont fait le match qu'il fallait en termes d'ambition et de tentative d'être un petit peu audacieux, d'audace, voilà, plutôt que d'ambition. Après, il reste très loin d'une équipe des Chiefs qui carbure fort.
En fait, j'étaye mon truc, Raphaël, mais ils n'ont pas perdu de ballon, tu vois, ça n'a pas été une déroute totale. Ils ont volé 3 ballons quand même, mine de rien. Trevor Lawrence ressemble de plus en plus à un quarterback. Il y a une identité, on parlait des Raiders hier, qu'on n'a pas, il y a une identité, mine de rien. C'est Travis Etienne, c'est Trevor Lawrence de manière moins olé olé. C'est Christian Kirk qui court des bons tracés, qui capte pas mal de ballons, tu vois. C'est cette base-là qui me plaît, moi. Après, il faut progresser, évidemment. Hein. Mmh. C'est les Chiefs en face. Hein.
Oui, non, mais oui. Pas grand-chose à ajouter.
Et bien alors très bien, du côté des Chiefs, vous avez évoqué, c'est Lucas du coup qui a dit son nom, Kadarius Toney, c'est pas celui qui fait les plus grosses stats, mais c'est un peu la vedette de la soirée quand même, mine de rien, 4 réceptions, 57 yards, un touchdown, il court 2 fois pour 33 yards, il retourne les punts aussi, intégration réussie j'ai envie de dire Lucas.
Ah oui, intégration réussie, la semaine dernière il avait très peu joué, je crois qu'il avait joué 9 snaps ou un truc comme ça, ou 9 tracés, mais c'était très peu, il venait d'arriver, là pour le coup c'est la première fois qu'il avait une semaine pleine, quand on voit ce qu'il est capable de faire, et surtout dans les conditions dans lesquelles on est capable de le mettre, comme tu l'as dit, en joueur un peu gadget, capable de faire un petit peu tout avec une vitesse. Quand on joue avec Patrick Mahomes, en plus, ça facilite certaines des choses quand on est receveur. Mais on voit qu'il est capable de faciliter aussi la vie de Patrick Mahomes, ce qui va bien aider le quarterback. On le rajoute dans cette attaque qui marche déjà bien. C'est une très bonne chose. Et pour les équipes adverses, c'est plutôt mauvais signe.
Du côté des Chiefs, le bémol, c'est la sortie de Juju Smith-Schuster qui prend un horrible coup à la tête, ce qui est assez dommage parce qu'il montait vraiment en puissance ces dernières semaines, donc il donnait vraiment une bonne option supplémentaire. Il avait déjà deux réceptions d'ailleurs avant sa sortie, il avait 33 yards. Et autre petit fait quand même, alors bon, c'est vraiment, je sais pas si c'est de l'anecdote, mais la disparition totale de Clyde Edwards-Helaire, qui était leur coureur titulaire au début de la saison et qui a zéro portée et qui a été ciblé deux fois dans les airs pour zéro réception. Isaiah Pacheco, le rookie, a complètement pris les commandes du jeu au sol. C'est lui qui a eu 16 ballons et qui gagne 82 yards, hein, donc en plus il en fait quelque chose. Mais c'était à mentionner. Voilà, Clyde Edwards-Helaire qui était plutôt beaucoup utilisé en début d'année et qui a disparu. Ça arrive des fois avec Andy Reid, coureur, hop, il est là, il y est plus.
Après, il a moins. Je suis moins choqué par le traitement d'Helaire. Disons qu'il a un peu moins de talent que d'autres running backs qui ont disparu sous Andy Reid de manière très étrange.
Oui, c'est pas le Sean McCoy. Les Titans 17, Broncos 10. On a parlé hier de Josh McDaniels qui avait l'air très mal face à Jeff Saturday. Là encore, on avait quand même une belle opposition entre le génie offensif de Nathaniel Hackett et le pragmatisme de Mike Vrabel, parce que les Titans n'avaient pas Jeffrey Simmons, ils n'avaient pas Bud Dupree, et pourtant ils mettent 6 sacks et 18 quarterback hits à Russell Wilson. Nathaniel Hackett donc, et Wilson qui galèrent. Ils étaient encore pas loin. Ils ont un drive pour égaliser à 3 minutes de la fin. Mais interception. C'est Wilson qui est cramé. C'est Hackett qui a un problème avec le plan de jeu. C'est les deux. Parce que, bon, là, on cherche toujours les réponses. Hein, mais ça fait 8 semaines. Je pense qu'on dira la même chose dans 3 semaines. C'est dramatique ce qui se passe à Denver, Lucas.
Ouais, surtout que tu dis qu'ils étaient pas loin. Parce qu'en effet, ils sont à 7 points au moment du dernier drive. Pour avoir fait ce match et l'avoir regardé de manière plus attentive, ils sont en fait très loin visuellement. À aucun moment, je m'imaginais qu'ils allaient marquer sur ce drive-là. Alors oui, il y a des pénalités qui les remettent un petit peu dans le drive, qui les remettent un petit peu, mais à chaque fois qu'il fallait faire un sac, à chaque fois qu'il fallait mettre une pression, la ligne offensive de Denver était aux abonnés absents, la ligne défensive, en tout cas le pass rush des Titans, faisait le geste juste, l'action qu'il fallait au bon moment, et puis Russell Wilson était perdu. Donc honnêtement, à aucun moment je pensais que Denver allait revenir ou allait pouvoir égaliser. Donc je pense qu'il faut pas trop regarder le score, parce que comme tu l'as dit, le contenu est très inquiétant, plus inquiétant que d'habitude, je sais pas, parce que c'est très inquiétant depuis le début, mais il n'y a aucune progression. Et quand on sait que c'est quand même Russell Wilson, il devrait y avoir des progressions, mais pour l'instant, il n'y a rien, quoi.
Mais je crois que ce que tu dis, c'est vraiment l'histoire de tous leurs matchs cette année, c'est qu'ils sont pas loin sur les points, mais quand tu les regardes,
eh ben,
t'as vraiment pas l'impression qu'ils y sont, quoi.
Sur les points, si je dis pas de bêtises, si Denver avait marqué 18 points à tous ces matchs, ils seraient à 7 victoires.
Alors, et si tu montes à 20 points, ils seraient à 8-1.
Voilà. Donc, normalement, c'est quand même une barre atteignable et que tu étais censé atteindre en faisant venir Russell Wilson, disons. C'est un peu ça c'est un peu ça le souci. Donc voilà.
Je crois qu'ils vont pas une fois dans la red zone.
Ouais.
Moi, c'est pour ça que je parle des coachs, hein. C'est parce que on va me dire, oui, il y a plein de blessés à Denver, il y a des blessés sur la ligne, etc. Mais en face, il lui manque 7 titulaires, je crois, en défense. C'est dramatique, tu peux pas ne pas aller dans la red zone une seule fois, en fait.
Oui, puis là je trouve que sur, comme tu dis, avec l'ensemble des blessés qu'il y a à côté à Tennessee, tu vois la force du coach et des systèmes, j'ai envie de dire, parce que t'as quand même des mecs qui sont pas normalement forcément des foudres de guerre, tu vois, mais des Rashad Weaver qui fait un sac et demi, 4 quarterback hit, des Marcus Walker, un sac et demi, 4 quarterback hit. C'est que tout le monde, grâce au système, presque n'importe quel mec qui monte sur le terrain côté Tennessee, grâce au schéma, est capable de mettre la pression dans le front seven. Et ça, grâce à ça, ils ont failli battre les Chiefs la semaine dernière. Là, bah, forcément, ça leur permet de réduire l'attaque des Broncos à néant. Donc ouais, c'est la force des schémas, la force des coachs, clairement. Cette équipe de Tennessee, ce n'est que ça.
Ryan Tannehill est de retour, ça donne 19 sur 36, 255 yards, 2 touchdowns. Eux, par contre, ils s'envolent vers le titre de division, ils montent en puissance, parce que Tannehill revient, donc Nick Westbrook, Ikine, je sais pas comment on dit, excusez-moi, montent en puissance. Ils sont vraiment incroyables, je trouve. Ils ont laissé passer l'orage, ils ont eu leur pluie de blessures, et ils en ont toujours, hein. Mais t'as l'impression que du coup, ils peuvent que progresser. Tannehill est revenu, après ils vont retrouver Jeffrey Simmons, ils vont retrouver Bud Dupree, et puis... ils sont quand même impressionnants, ces Titans, Lucas.
Ouais, ils sont impressionnants. Je pense que c'est la version un peu évoluée des Giants dont on parlait tout à l'heure, dans le sens où ils vont rarement se faire éclater, comme je disais, parce qu'on l'a vu la semaine dernière face aux Chiefs, ils les tiennent et ils sont vraiment pas loin. Par contre, même quand une équipe elle est très faible, ils vont rarement l'éclater parce qu'ils ont un style de jeu. Parce que là, comme je disais, franchement, ils sont bien supérieurs face à leur adversaire, mais ils finissent qu'à 7 points. Alors visuellement, c'était loin, je l'ai dit, mais bon, ça reste 7 points, ça reste pas à l'abri d'une erreur, d'une couverture qui est mal faite, d'un fumble au mauvais moment, d'une interception. Et du coup, face à une équipe de Denver qui est loin d'être à leur niveau, ils se mettent en danger, ils sont jamais en danger, mais ils restent à portée de tir parce que cette équipe-là, elle est construite comme ça. Mais bon, pour le coup, ça marche quand même, et puis ça marche de manière récurrente et depuis déjà plusieurs saisons. Donc on peut considérer que maintenant c'est une force et que ça va pas exploser en vol. Mais c'est vrai que cette équipe-là, elle va rarement avoir des gros écarts d'un côté comme de l'autre.
En fait, tu le dis bien, tu dis c'est les Giants sont évolués, c'est aussi les Broncos qui auraient un minimum d'attaque. Parce que si tu regardes leurs victoires, on parlait d'atteindre les 20 points pour les Broncos. Les victoires des Titans, c'est 24-22, 24-17, 21-17, 19-10, 17-10, 17-10.
Ouais, c'est les Broncos qui arrivent à aller jusqu'à au-dessus des 20 points.
C'est ça, c'est les Broncos qui mettent ce qu'il faut pour gagner.
Ouais, c'est les Broncos, Russell Wilson, pas énorme déception, mais semi-déception, quoi, j'ai envie de te dire.
Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la moitié de ce que tu avais commandé. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ce qu'ils n'ont pas encore.
C'est ça. Les Bears 30, Lions 31. Deux équipes qui ne prétendent plus à grand chose, mais qui ont offert un super match. Justin Fields a marqué un touchdown de 67 yards au sol à 9 minutes de la fin pour donner l'avantage à son équipe. Mais extra point raté. Détroit marque à un peu plus de 2 minutes de la fin pour repasser devant grâce à l'extra point. Les Bears échouent finalement sur 4ème tentative. Très très dur évidemment pour l'attaque des Bills de voir leur kicker gâcher tout le travail des honnêtes hommes qui étaient sur le terrain pendant que lui se tournait les pouces sur le banc. Mais on peut aussi dire quand même que les Bears menaient 24-10 dans le dernier quart et qu'ils doivent jamais laisser Détroit revenir, si je suis honnête. Raphaël.
Oui, non, c'est ça. Ils perdent ce match objectivement aussi en défense parce qu'ils ne doivent pas laisser Détroit revenir et avoir en plus Détroit a vraiment des drives très très longs, ils font bouger les chaînes doucement, des petites actions, donc ils se font piéger par ça et c'est ce qui leur coûte la victoire. Après, disons, si on veut être, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir le verre à moitié rempli côté Bears cette année. Depuis 4 semaines, depuis un mois, c'est quand même positif ce qu'on voit en attaque. Ils marquent plus de 30 points sur les 4 dernières semaines. Par rapport au début de saison, c'est quand même le jour et la nuit ce qui est proposé en attaque. Et à quelque part, si Chicago sort de cette saison en ayant trouvé la clé avec Justin Fields, je trouve que la saison est déjà presque réussie pour Chicago, peu importe le bilan final. Mais si tu sais ce que t'as et tu sais comment conduire cette attaque avec Justin Fields, ça vaut largement une place à l'arraché en playoff où tu te fais maltraiter en wildcard.
Les Eagles, de l'année dernière.
Oui, rien que le fait qu'ils ne soient plus déprimants, c'est déjà une victoire. Parce que clairement, comme tu disais, il y a 3-4 semaines, tu n'avais pas envie de regarder les Bears. Maintenant, tu as envie de regarder les Bears. Est-ce que c'est un peu... On était sur les comparaisons d'équipes. Tiens, allez. Est-ce que c'est un peu les Ravens du pauvre?
Ouais, on en a parlé un petit peu là.
Ultra jeu au sol.
Ouais, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Oui, c'est vrai que il a Justin Fields a un petit peu ce côté Lamar Jackson dans cette possibilité à courir et beaucoup et engranger les yards. Mais je suis d'accord avec Raph. Déjà on parlait de Houston tout à l'heure. Pour le coup, Houston, moi c'est une équipe qui me hype pas du tout quand ça joue et je vois très peu d'intérêt de les regarder jouer. Ça marche aussi pour Détroit, mais Chicago pour le coup. Quand il y a un match de Chicago, on sait que le niveau de jeu sera peut-être pas excellent, mais il y a des choses spectaculaires, il y a des choses qu'on a envie de voir, et en plus il y a de la progression semaine après semaine. Donc en effet, ce sera pas une année de perdue cette année, à l'inverse peut-être de l'année dernière où il a fallu changer le coach et tout ça. Là, ça sera pas une année perdue, une année sur laquelle on peut construire. Si en plus, comme l'a dit Raph, il y a éventuellement peut-être une wild card, quitte à être loin du niveau wild card, mais prendre l'expérience. On se rappelle que les Eagles face aux Buccaneers s'étaient qualifiés, et ils n'étaient pas invités, mais c'était qualifiés, ils ont pris l'expérience et ils continuent de progresser. Donc pourquoi pas cette trajectoire-là.
Il y a eu beaucoup de pénalités hein, aussi pour Chicago. Enfin, voilà, il y a des erreurs de jeunesse, c'est aussi ça. L'important, tu l'as dit, c'était pas tant la victoire que de continuer à montrer un visage plus intéressant. Du côté des Lions, c'est Amon-Ra St. Brown dépendance. Hein, 10 réceptions, 119 yards. Il fait beaucoup progresser cette attaque. Est-ce que justement, je dis que si je suis mauvaise langue, si je dis que c'est. En fait, j'y vois moins de trucs intéressants que Chicago parce que justement, ça sent un peu la victoire au raccro, mais j'ai pas l'impression de voir une équipe qui se dessine non plus, quoi. Goff, il ressemble à un quarterback en sursis. Il y a Amon-Ra St. Brown qui est un bon élément, mais derrière, je vois pas non plus des pierres fondamentales qui se posent pour l'avenir non plus, puisque là, on est déjà sur une équipe qui joue plus non plus cette saison, quoi.
Il y a des jeunes joueurs qui se sont montrés un petit peu en défense. Hutchinson fait un bon match. Jeff Okuda intercepte le ballon qu'il faut. Il y a un petit peu de choses sur lesquelles on peut avoir un peu d'espoir. Mais c'est vrai que paradoxalement, je suis d'accord avec toi. J'en ai un petit peu moins que pour Chicago, alors que ce sont eux qui gagnent le match. On le rappelle.
Je trouve que là, c'est le biais quarterback qui joue vachement là-dessus aussi. C'est que ça paraît plus évident de repartir si tu as déjà le quarterback que de trouver finalement ce fameux chaînon manquant, on va dire. Parce que oui, je rejoins Lucas, il y a quand même des jeunes joueurs qui se montrent, notamment en défense côté Détroit. Il y a une ligne offensive correcte. Il y a des trucs qui pas inintéressants, mais voilà, encore une fois, va falloir aller trouver un quarterback.
T'es en train de dire que Justin Fields est plus fun à regarder que Jared Goff ?
Tout petit peu. Okay. Tout petit peu. C'est la première victoire en tout cas à l'extérieur pour Dan Campbell, sachez-le. Oui, Dan Campbell qui a commencé l'année dernière. Donc ils avaient gagné 0 match à l'extérieur l'année dernière et pour l'instant cette année ils avaient aussi quelques défaites, ils étaient à 1-3 donc ils étaient à 0-3 pardon. Les derniers matchs c'est entre les Steelers et les Saints, victoire 20-10 pour les Steelers. TJ Watt qui était de retour est clairement la star de ce match, un retour qui fait un bien fou à la défense de Pittsburgh qui signe deux interceptions importantes dans le dernier quart. New Orleans limité à 186 yards au total. On commence par quoi ? Par la défense de Pittsburgh qui va bien ou par les Saints qui se reposent la question du quarterback ?
J'ai tendance à vouloir partir vers ce qui va bien.
Allez, la défense des Steelers.
Parce que TJ Watt, tu l'as dit, c'est le nom qui fait la différence. Parce que déjà, il est incroyable à avoir joué. Et puis surtout, c'est Raph d'ailleurs qui disait, je crois, pendant le match sur notre Slack, on a l'impression qu'il transforme les joueurs qu'il y a autour de lui. C'est qu'un joueur, et pourtant, c'est des joueurs qui sont bons. Je veux dire, c'est pas des inconnus, c'est des joueurs qui sont bons. Mais quand il y a TJ Watt au milieu, on a l'impression qu'ils sont encore meilleurs. Et ça donne une défense qui redevient élite et qui fait gagner ce match. Ça donne les statistiques. Donc, j'ai rarement vu un joueur aussi important, notamment en défense, parce qu'en attaque, on sait que le quarterback a une importance énorme, mais en défense, j'ai rarement vu un effet aussi visuel, en tout cas.
Raphaël,
je
défenseur de l'année entière.
Je partage complètement l'avis de Lucas. Il y a un impact Watt assez bluffant en fait, du côté de Pittsburgh, où la défense qui avait du mal depuis plusieurs semaines, tout d'un coup, se met à briller de nouveau. Une des illustrations, c'est Alex Highsmith qui est à l'opposé de Watt sur la ligne défensive et qui, bah là, boum, se retrouve avec deux sacs, plusieurs quarterback hits, parce que Watt concentre l'attention sur lui. Mais même, tout le monde semble meilleur, les defensive backs semblent meilleurs qu'il y a. Alors, oui, l'opposition en face, c'est aussi un peu plus facile face à ce corps de receveur des Saints, mais voilà, malgré tout, tout le monde a l'air mieux. Donc, bah ouais, c'est. À certains égards, si on était sur le truc le plus la définition première, j'ai envie de dire, de valuable, ça pourrait être clairement un candidat au titre de MVP ou ouais, tellement en fait il rend meilleur cette équipe juste par sa présence. Donc super joueur et donc voilà, après Pittsburgh gagne ce match parce qu'en face c'est une équipe des Saints un peu la croix et la bannière cette saison quoi, c'est
Bah là, oui, ça devient la galère, mais on parlait de coach en danger. Dennis Allen, ça commence aussi à. On rappelle, il avait déjà une expérience de coach avec les Raiders, ça n'avait pas été incroyable. Moi, j'ai du mal à voir. Ils ont peut-être aussi été un peu pris de court par la retraite de Sean Payton. J'ai plus le timing en tête de quand Payton part. Est-ce qu'ils avaient eu le temps de mener une recherche globale ? Mais je suis même pas sûr. Enfin, je veux dire, Allen avait été. avait été introduit quasiment immédiatement parce qu'il était dans le staff et puis basta. Est-ce que c'est pas aussi un truc à voir l'année prochaine en plus du quarterback, parce que évidemment le dilemme d'Alton Winston, personne ne doit être confronté à ça.
Ouais, mais je pense que de toute façon c'était à mon avis écrit que Dennis Allen prenne le relais de Sean Payton. Est-ce que c'était écrit qu'il le prenne aussi rapidement, je sais pas, mais c'est vrai que à mon avis ils avaient confiance dans le fait que ça allait marcher. Ça va être une question à se poser. Après, je crois, Greg l'avait confirmé la semaine dernière, mais ils n'ont pas leur premier choix de draft cette année. Donc même s'ils ne sont pas bons, ça va aller du côté de Philadelphia. Donc ça n'aide pas pour trouver un quarterback.
Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, oui. Bon, ça sent la fin pour des... On repose la question. La semaine dernière, je crois que Lucas n'avait pas voulu répondre, mais est-ce qu'on remet James Winston? On dit Dalton? Qu'est-ce qu'on
fait? Ah non, moi j'avais répondu qu'il fallait remettre Winston.
Ah oui, t'avais répondu qu'il fallait remettre Winston. Non, bon, bah.
Ouais, je serais d'avis Winston aussi, je le trouve plus drôle. Regardez.
Oui, après. Voilà, j'allais dire maintenant, hein, au point où on en est, autant se marrer, quoi.
Exactement.
On fait ça pour ça. Très bien. Je mentionne quand même que Pittsburgh, offensivement, était à 217 yards au sol. Hein. Ils avaient aussi largement forcé de ce côté-là. Et Kenny Pickett, quand même, c'est un rookie dont on surveille la progression. Bon, il y a une connexion avec George Pickens, mais pour le reste, ça reste très, très irrégulier, hein, au niveau des lancers. En plus, il prend 6 sacs sur ce match. Donc ça n'aide pas forcément. C'est comme ça, messieurs, qu'on termine l'épisode 535 du podcast Touchdown Actu. On avait un peu moins de matchs, hein, dans ce grand débrief. On est un peu plus... c'est une émission plus compacte. Vous allez courir moins longtemps cette semaine. Parce qu'on avait quand même déjà fait pas mal de matchs, en fait, vu qu'il y a le Munich spécial, plus le débrief du jeudi, plus les affiches. Là, on en avait quand même élagué pas mal. C'est comme ça donc qu'on finit le 539 du podcast Touchdown Actu. Merci tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je vous invite à aller jeter un œil sur tipeee.com/touchdownactu ou tdactu, j'ai un doute maintenant, je ne sais plus quelle adresse c'est. Bref, allez sur le site, il y a des nouveautés encore. On a des nouveaux sous-verts et des nouveaux stickers qui ont débarqué avec ambiance 90s. C'est ambiance Prince de Bel-Air sauvé par le gong, ce que vous voulez. Tipeee.com/touchdownactu, voilà, c'est en entier touchdownactu là-dessus. Donc on a plein de choses. Et du coup, on a plein de nouveaux tipeurs. Jordan, Julien, Tristan, Jeff Veder, Coro Pockels, Régnier, Captain Survette, Tronew, Champio, Biker B40, 4, Eric le Géant, Pétrouan, Thibaut, Olivier et Ben. Encore, et il y a toujours les marque-pages, hein, ils sont vraiment bien, ils sont partis en masse, donc n'hésitez pas, il en reste plus énormément des marque-pages, je crois. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, TikTok @TDActu, Instagram @TDActu en entier, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @ElVola pour Lucas, @AlainMattei. Pour moi-même, même si je vais moins sur Twitter, parce que ça va pas, c'est avec l'hiver là, je suis pas prêt, tu vois, mentalement à affronter Twitter en plus. C'est beaucoup trop traumatisant. On vous rappelle que l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs.
Un plaisir, toujours.
Et évidemment, au cœur de l'hiver, vous êtes toujours mon rayon de soleil le mardi soir.
C'est beau, finir sur ça, c'est beau.
Et demain, je serai avec Victor pour la preview de la semaine 11. Ciao, ciao tout le monde.
Les analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.